Liberté, égalité, fraternité. Liberté. Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
Le seul incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans la continuité du direct sur campus, un des premiers, des troisièmes vendredis de chaque mois. Quand bien même celui-ci serait le dernier de cette putain d'année de merde 2020, eh bien source prend ses quartiers sur le 92 points de la bande FM de Bruxelles. C'est une émission propre à l'Université libre de Bruxelles, étant donné que ça touche au logiciel libre, aux licences libres, à l'art libre. Au Covid libre, non dit juste. Donc, ne vous inquiétez pas si un petit temps de transition se fait, vu que nous avons pas tout à fait terminé nos travaux de chantier ici dans les studios et la transition entre deux émissions prend toujours ce petit temps fort agréable de musique en Creative Commons que vous pouvez retrouver sur le site auboutdufil.com. Et là, je dirais qu'un petit moment de dub avec Andrea et Dacal Podesser. Au Brésil, un petit album qui s'appelait Affirmativa, ce titre intitulé Podesser est un mélange audacieux entre de la musique brésilienne, du dub reggae, et il y a même un petit coin hip-hop, ah, ça c'est parfait pour la mission qui nous suivra, et quelque chose de chouette dans les vocales, allez on va tester ça, et se faire une petite idée. À tout de suite.
Servem como carvão pra manter a chama acesa da revolução. Sozinho sou semente, contigo somos caule. Com eles somos galhos e assim seremos árvores. Sozinho sou semente, contigo somos caule. Com eles somos galhos e assim seremos árvores.
Pode ser, claro que sim. O que vier, o coração me coloca à prova pra mostrar. Não foi tudo em vão.
Não foi tudo em vão.
Yopa, c'était bien Andreia Dacal du Brésil. Ah oui, ça prestouille, c'est vrai que ça passe tous les fronts ici.
Ouais. Il me semble qu'on n'a plus l'habitude. Hein.
Ah voilà, voilà. Alors, Tari Rock, effectivement, est de l'autre côté de Bonjour. L'aquarium. Salut, Tari Rock. Salut, Tirce, salut, Géo.
Salut.
Alors, il y a un micro noir que je vais allumer un petit peu plus.
Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il ne marche pas, le micro
noir. C'est enfin, okay. il y en a.
Oui.
Oui. Donc voilà, en pré-écoute, on ne sait pas vraiment faire le test micro directement. Donc quand on est en transition.
Là, on t'entend. Et Thierry s'assied gracieusement devant le micro.
Je suis un peu assis sur ma jambe. C'est bizarre, je m'entends étrangement de loin dans mon casque. Je suis le casque qui déconne.
Pourtant, tu t'appelles pas Alain. Pardon.
Hein?
De loin.
Alain, de loin.
Non.
Oui. C'est étrange. Bonsoir, c'est la fin. Mais ça, il y a des échos étranges dans les, que fait la technique?
Il me semble que la technique a un problème de technique.
Ouais, bon.
Ça se passe mieux quand c'est Thierry qui gère, hein. Ouais, si, ça.
C'est la dernière de l'année.
Non.
Ah oui.
Si. En même temps, bon, c'est une année super chouette, donc c'est pas. C'est chouette que ce soit la dernière de l'année.
Mais l'année prochaine sera encore meilleure.
Yeah.
J'enlève mon casque parce que ça fait trop bizarre dans les oreilles.
Ça te fait bizarre de voir son casque.
Ouais, mais alors il y aura un petit souci au niveau de l'entente cordiale et conviviale et collégiale.
Ouais, hein.
Ouais, oui, il me semble. Voilà. Il me semble qu'on peut pas parler quand tu parles.
Hein?
Parce que je m'entends pas dans le casque quand je parle et que tu parles.
D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, voilà. Et donc c'est ce qui fait l'outil.
Ouais.
Oh ben, il est temps qu'on prenne un peu de congé. Hein.
Oui.
C'est ce que je veux dire. Dans la mesure où si la technique nous lâche, effectivement, on n'est pas rendu.
Bah c'est pas grave. En janvier, il y aura déjà quelques améliorations, non? Avec les bluesistes.
Oui,
je viens de faire quelques travaux.
2, 3, 4, 5 janvier, bienvenue à la radio. On l'avait déjà dit il y a 15 jours, mais ça coûte rien de le répéter. Et on nous a demandé s'il allait y avoir une retransmission, une participation en ligne, hein, parce que c'est devenu fort à la mode maintenant, le en ligne. Je sais pas du tout. Je crois que à partir du 2 janvier, de toute façon, nous... Les Cnuragistes, on sera là à la radio pour réinstaller différents outils numériques. Et donc, du coup, le 2 janvier, on se posera la question de savoir si on essaie de rendre accessible ça sur un salon quelconque, Jitsi ou Mumble, ou je sais pas.
Okay.
C'était une demande, hein, on a reçu un mail. Hein,
Et tu pourras donner quelques exemples de ce qui va être effectué comme travaux?
La sieste.
Ouais, à part la sieste.
Alors, dans le programme de l'Auberge espagnole de réinstallation des outils numériques de Radio Campus, nous avons, toujours dans la catégorie recherche, sieste et développement, bon, la sieste, c'est facile, tout le monde comprend, recherche et développement, bon, ça, c'est l'occasion de se poser des questions sur le numérique, pendant que nous ferons, qu'est-ce qui est prévu? Installer un nouvel ordi pour le studio bois. Avec des outils de traitement du son. Ça, c'est le 2, je pense. Il y a changé les disques durs du PC qui gère l'IDGC. Donc, ça, c'est dans la régie. Il y a un ordinateur sur la gauche avec des playlists et des trucs comme ça. Une console pour traiter le son. Ben, lui, il ne fonctionne que sur un disque dur. Donc, on va en mettre un deuxième pour qu'il soit plus pérenne. Ça c'est le 3 peut-être, puis il y a quoi d'autre? La réinstallation du streamer, ça c'est un gros dossier.
C'est pas un rythme un petit peu trop soutenu, ça le 2, le 3, le 4, on aura peut-être un peu la tête dans le disque pur.
Ah mais ça c'est la productivité, hein. Il faut que ça avance. Hein.
Monsieur, vous avez toujours pas compris notre monde est à la rentabilité.
D'accord, bah oui. Alors ça va.
Vu le prix qu'on paye les Gluneragistes, il faut bien qu'ils soient rentables.
Ah bon, ils sont payés?
Non, enfin je sais pas.
Si.
Un peu.
Si, on continue à militer aussi pour faire sortir les interventions d'informaticiens libristes de la gratuité et du bénévolat perpétuel. Parce que voilà, ça reste quand même... des choses qui nécessitent pas mal de compétences, pas mal de temps, surtout si on veut essayer de développer un esprit collectif autour de ces activités. Donc du coup, oui, on est payé 300 euros hors TVA par mois par la radio, comme ça tout le monde le sait.
C'est moins confidentiel que le prix des vaccins Pfizer que notre ministre du fédéral des Auvergne a balancé. Ouais.
Ouais. Et parfois, quand on a des plus gros chantiers, comme devoir intervenir parce qu'il y a des disques durs qui partent en couille sur un serveur comme Revox, ce qui est arrivé, ben on discute et on essaie d'avoir une autre petite facture parce que voilà, on a dû intervenir peut-être de soir ou de nuit. Et bon, ben c'est jamais des montants énormes. Je sais plus, c'était 600, 200 ou 300 euros pour cette fois-là. Donc voilà, on travaille franchement en dessous des barèmes du métier technique, mais par contre, on fait ça dans une légèreté humaine beaucoup plus agréable qu'un vrai métier sous pression avec des vrais contrats et des vraies responsabilités écrites sur papier qui font chier et flipper tout le monde, mais parce que du coup, c'est ça aussi l'esprit libriste, c'est de pouvoir faire ça plus détendu du slip. Comme ça, c'est un peu plus agréable. Et pour les informaticiens et informaticiennes qui viennent faire les choses, mais c'est aussi l'opportunité pour créer un peu de liens et d'émulsions dans le rapport au numérique des utilisateurs et utilisatrices, parce que voilà, ça sert à rien de garder dans les méandres des ombres tout ce qui fait qu'on a droit à des outils pour faire de la radio ou du réseau, ou que sais-je. Voilà. Oui, je crois que j'ai oublié encore un des chantiers, mais je sais plus lequel.
Il y a beaucoup, hein, de toute façon.
Ouais. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est vrai que bon, on a 4 jours comme ça, et en même temps, bah, si ça n'avance pas au rythme qu'on voudrait, bah, c'est pas très grave. L'important, c'est que on ouvre les portes et que on aimerait bien, justement, avoir un peu plus d'échanges entre les animateurs, les utilisateurs, utilisatrices et les informaticiens, techniciens, que sais-je, parce que c'est sans ça, c'est difficile de faire des choses ensemble, qu'on sorte un peu des mécanismes de délégation et de sous-traitance perpétuelle. Voilà.
Ouais, ouais.
Amen.
Alléluia, tout ça.
Alléluia.
Alléluia.
Voilà. Mais du coup, en grand résumé, si vous êtes intéressé par de la radio, par de l'informatique, venez le 2, 3, 4 janvier à Campus.
Et même le 5. Ouais.
Et il y aura des humains qui vont vous accueillir et vous pourrez poser toutes les questions du monde que vous voulez.
Je crois que on s'avance un peu avec toutes les questions du monde.
Comment est-ce qu'on fait pour élever des hamsters?
Comment on fait les enfants?
Alors, nous on est informaticiens, on fait pas. Il faut demander à une dame.
C'est pas vrai.
C'est quoi ce détachement ou cette fuite de responsabilité à répondre à toutes les questions? 42. De toute manière, c'est toujours 42.
Oui, oui. Oui, mais oui est la vraie réponse. Oui. Oui. Tout à fait. Yeah, mais je sais pas, donc voilà, pour ce côté, c'est déjà bien. Hein. Et puis bon, les gnuragistes, ça c'est aussi le projet qui avance à son rythme. Et c'est sympa ici. On vient donc d'accompagner la Maison du Peuple d'Europe. Il y avait des ordinateurs, il y avait 4 ordinateurs, pas de serveur, pas vraiment de backup, tout un peu en truc mix, Windows, Mac, un pauvre Linux perdu dans le tas. Et donc du coup, ben on librise tout ça et en gros tout marche super bien. Il y a un petit serveur Samba qui fait ses petits backups et tout
et
ça.
Et
le partage d'imprimantes fonctionne bien. Les gens ont l'air de s'approprier sans grande difficulté les LibreOffice et autres Firefox et autres Thunderbird et autres accès réseau que sais-je. Il y a juste la carte son d'un iMac que ça marche pas. C'est juste con et chiant, mais voilà, ça marche pas. On aurait dû le jeter par la fenêtre.
Oui, je trouve que c'est beaucoup d'efforts menés pour faire fonctionner un ordi très fermé.
Oui, bah écoute, tout, enfin, c'est ça qui est génial, c'est que moi, j'étais persuadé que c'est un truc assez récent, je crois qu'il date de 2017, un truc comme ça. Je m'étais dit, bon, faut même booter avec une clé UEFI, ça va être difficile. Bon, en fait, non, ça marche très bien. Il y a juste petit détail que avec un clavier sans fil, parce que c'est la mode dans le monde d'Apple de tout faire sans les fils, ben tu sais pas demander à ton magnifique ordinateur Macintosh de démarrer depuis une clé USB, puisque quand tu pousses sur la touche Alt ou Option dans le monde d'Apple, il se passe rien du tout. Mais
ah oui, puisque sans fil.
Puisque sans fil. Parce que sans fil. Donc du coup, il faut, puisque c'est un très joli clavier avec une batterie intégrée, parce que même changer les piles, tu peux plus dans ton clavier Apple. Tu as un joli câble qui permet de recharger ton joli clavier, qui est connectable sur un port USB, qui est encore un port USB, on va dire ancienne génération.
Ah, il faut pas un adaptateur.
Il faut pas d'adaptateur, non. Quand même pour le charger, non. Ça, ils te fournissent peut-être le câble avec. Mais alors là, ça marche.
T'as payé 60 euros ton câble.
Oui, c'est ça. Mais c'est un beau câble, hein. C'est très joli. C'est très joli.
C'est très joli.
Alors du coup, quand il est à le câble, alors que tu pousses sur les boutons du clavier, parce qu'il y a des raccourcis magiques dans les Apple, comme je sais pas moi la touche S pour faire une sorte de démarrage sans échec ou je sais quoi, et il y a la touche Option qui permet de dire démarre de autre chose que les disques durs que tu trouveras, et là ça marche.
Mmh, wow.
Ça marche bien. Sauf le son. Et la souris. Ah oui, parce que c'est vrai, la souris aussi, elle est sans fil avec le Bluetooth. Et alors, elle fonctionne, mais quand tu rebootes, elle fonctionne plus. Donc, tu dois refaire le lien entre ta...
Est-ce que l'écran aussi est sans fil?
Ah non, l'écran, non, il a une belle dalle en verre.
Ah ouais.
Oui. N'essayez pas de démonter vos iMac assez récents, ce n'est plus du plexiglas, c'est du verre. Et ça casse. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, la souris, elle fonctionne, c'est super chouette. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu les souris de ces Apple, et elles sont toutes lisses et on voit pas les boutons. Parce que c'est choquant, les boutons, hein, c'est pas joli. Alors, en fait, il y a un gros bouton pour mettre tous tes doigts dessus. Mais que si tu pousses un peu plus à gauche de la souris, ça fait clic gauche. Que si tu cliques un peu à droite de la souris, ça fait clic droit. Et que si tu fais avec deux doigts du scroll, comme tu ferais sur un trackpad, hein, les trucs qu'on a sur les ordinateurs portables, ça fait la roulette. Sauf que tout ça, ça marche pas. Et donc, t'as une grosse souris avec un gros bouton. C'est tout.
C'est la première souris, ça.
Ouais. Écoute, je sais pas, c'est la magie Apple. Souris, dans le monde de la Macintosh, tu peux l'utiliser avec des gestuels à deux doigts ou à trois doigts ou peut-être même à quatre doigts qui font faire des effets extraordinaires sur ton bureau de la Macintosh.
Ouais. Et tu fais l'hélicoptère.
Et tu vois, c'est ça. Mais
historiquement, les souris, la première souris, en tout cas commercialisée, c'était une Apple, je pense. Et il y avait un seul bouton pour appuyer.
Xerox.
C'est Xerox, là-bas.
Xerox
avant Apple.
Inventé le pointeur.
Et donc Apple, ils ont peut-être été nostalgiques, je sais pas.
Ah oui, ils se sont dit on va faire une grosse souris Xerox, mais avec plus de design et du Bluetooth, puisqu'ici plus moderne.
Et 250 euros la souris.
Alors ce qui est génial aussi, ça c'est une magnifique conception, juste hein, ils ont beau avoir de soi-disant gens qui font des très jolies recherches esthétiques. Quand tu veux recharger ta souris, parce qu'il faut la recharger aussi, la souris.
Je dis pas qu'il faut la mettre à l'envers.
Si.
Mais non.
Si. Petit trou où tu peux mettre le câble USB, le même que tu as pour ton clavier, parce que voilà, tu peux. Mais alors quand tu veux faire charger ta souris, bah tu sais pas l'utiliser parce que c'est en dessous de la souris le trou.
Pourquoi?
Bah écoute, je sais pas.
Il y a pas de la place à l'arrière.
C'est pas. Je crois que dans l'idée c'est peut-être de passer à
cacher tous les trous, tous les boutons.
Oui ça, oui, bah, oui, parce que du coup, tu penses toi un trou avec un câble, c'est de la liberté ça. Je dirais.
Mais non, ça pourrait évoquer.
Pourrait brancher choses. N'importe quoi, c'est pas sécurisé.
Non mais ça pourrait évoquer des choses aux pauvres appelistes.
Il y a toute une symbolique de fait dans les connectiques mâles et femelles et tout ça. Mais oui, mais c'est, je comprends pas. De fait, quand ta souris qu'elle est à plat, ben tu te dis bah c'est l'heure d'aller faire un café ou une promenade, je vais mettre à charger ma souris.
Ou alors t'en as une deuxième.
Justement, c'est bienveillant pour les utilisateurs. Ça les force à arrêter d'avoir les yeux rivés sur un écran.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Non, mais t'as une extension. La deuxième souris est à 400 euros.
Oui, aussi. Ou alors peut-être ils vendent un tapis. Avec
auto-rechargeable.
Ouais, tu vois.
Ah oui, comme pour les voitures. Oui. Mais un tapis de souris.
Oui. Ou comme les plaques à induction qui chargent.
Ah oui. Non,
je sais pas.
Et en plus, tu peux, à midi, du coup, tu changes pas, tu gardes, tu t'enlèves ta souris, tu mets ta
tailleur. Ou... Ouais.
Ça peut tenir à chaud des tasses de café et des tasses de thé.
Donc, chers ingénieurs d'Apple qui nous écoutent, on vous donne des idées.
Voilà. Le tapis souris cafetière, chauffe-tasse, tout ça, je suis sûr que ça existe.
USB 3.0.
Ça a beau être du matériel très moderne et avant-gardiste, ça reste encore bien dommage que des trucs un peu fondamentalement basiques comme une souris et une carte son, ils trouvent le moyen de rendre ça compliqué avec des logiciels libres. Ou bien les logiciels libres sont faits par une bande d'incompétents qui savent pas gérer une carte son et une souris.
C'est déjà peut-être plus
probable. Mais j'en doute.
Non, je rigole.
Non, mais c'est hallucinant. Oui, c'est Peter qui nous rejoindrait tantôt, qui racontait que quand tu veux identifier sur un Mac quel modèle tu as, alors tu as voilà des espèces de références un peu débiles comme iMac 18.1.
Bah, oui,
ok, mais c'est pas parce que tu as le modèle que tu sais quelle carte ou quel composant il y a sur la carte mère. Parce que le modèle ne suffit pas. Il y a des déclinaisons peu obscures qui tantôt ont une carte ceci, genre Cirrus Logic, tantôt une carte cela, genre un tel HDA. Et pour découvrir réellement quel est le modèle que tu as et quel est le matériel qui est dedans, eh ben, c'est pas simple.
Ah oui, ça dépend si ça a été construit en Chine, aux États-Unis.
Je sais pas, c'est juste,
C'est pour savoir quel enfant on a exploité. C'est juste ça qui change.
Mais ça, il n'est pas dit dans le DMI D-Code ou dans les infos. Oui, DMI D-Code dans le monde GNU Linux.
Cet ordinateur a été fabriqué par... par Edouard.
Par Edouard, j'en doute, par Wang, 11 ans. Très fier de servir son pays, sa nation, son entreprise, sa famille.
Le monde entier.
Le monde entier.
Un vrai citoyen ouvrier du monde.
Parce que sans lui, on ne pourrait pas regarder Petflix et...
Cet ordinateur est en hommage... J'imagine cet ordinateur est en hommage à tel enfant qui n'a pas passé l'hiver.
Oui,
c'est glauque.
Le pire, c'est que c'est derrière cet esthétisme super léché et ce modernisme cloudesque juste rocambolesque, c'est clair qu'il y a d'une industrialisation et une exploitation juste ignoble qu'on ne voit pas du tout dans ces jolis trucs tout léchés. Et voilà, c'est bon, mais bon. Voilà.
Ça Apple, me rappelle le bouquin que je dois encore lire d'ailleurs, la machine est ton seigneur et ton maître.
Ah oui, ton seigneur et maître, ouais, de fait. Ouais, ou ton seigneur et ton maître.
Qui parle de Foxconn en fait, et tu me dis si je me trompe.
Non, jusque-là ça va.
Ouais, d'accord, mais après je sais plus, tu vois, donc.
C'est un peu des témoignages, on va dire, des conditions de travail et on va dire des promesses mensongères pour attirer, on va dire, la population rurale dans, on va dire, le giron de la grande cité industrielle dans laquelle sont établies les usines ou le parc industriel de Foxconn. Parce qu'une fois que les gens arrivent là-bas, bien en fait, c'est assez proche. J'ai envie de dire d'un camp de travail, quoi, en gros, hein, parce que tu as jusque des... Donc d'abord, les employés travaillent sur site, dorment sur site, sont rémunérés, mais parfois achètent l'eau sur site, mais le site appartenant à Foxconn, ils sont malins chez Foxconn.
Habitent dans des maisons où on a soudé des barreaux aux fenêtres pour qu'ils ne se transforment plus en frites.
Ouais, il y avait eu cette vague de suicide qui avait un peu fait apparaître l'autre versant de l'industrialisation made in China, je sais pas trop.
Ça me rappelle qu'au début de la pandémie de Covid en Chine, ils avaient justement eu ce problème que comme les ouvriers dorment dans des dortoirs.
Oui.
Et dès qu'il y en a un qui est malade, les 20 autres du dortoir sont aussi malades.
Oui, et en plus.
Et donc, ils avaient dû forcer les entreprises permettre aux ouvriers de rester chez eux en fait et de pas dormir dans le dortoir.
Oui, ou d'arrêter de changer les dortoirs tous les 3 mois. Ouais, parce que ça aussi, ils sont malins, le management à un certain niveau, parce qu'on parle quand même d'usines où il y a potentiellement 1 million de travailleurs sur site, à peu de choses près. On fait des tournants très régulières dans les dortoirs parce que voilà, quand les gens sont juste nouvel arrivants du milieu rural et viennent de débarquer, bah ils ont pas les moyens vraiment d'aller habiter ailleurs. Donc du coup, ils ont des dortoirs à disposition, mais du coup, on fait des tournants dans les dortoirs pour éviter qu'il y ait comme ça des sentiments de reconnaissance et de la collusion et de je vais dire de la solidarité qui s'installerait.
Parce que, et pour éviter qu'ils se rebellent, quoi, en gros.
Bah, tu penses, mais ce serait quand même délicat. Donc un moyen très simple, c'est voilà, c'est moi-ci, toi tu vas là. Et d'ailleurs, en même temps, vous travaillerez ailleurs, comme ça vous ne verrez plus sur le site. C'est sympa, la fabrication de tous ces beaux petits objets que nous essayons de libérer logiciellement. C'est un peu triste, mais bon... Voilà, on est quand même dans une année de merde, alors du coup, on va rajouter des couches en cette belle fin d'année, c'est chouette, hein. Non, mais c'est, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme truc sympa, bref. La machine est ton seigneur et ton maître, c'est un petit livre des, je ne sais plus, la maison d'édition, les 100 000 signes, ouais, c'est ça, l'édition des 100 000 signes, si je me souviens bien. C'est un tout petit livre et c'est des espèces de témoignages et de on raconte un peu l'autre versant de d'où viennent toutes ces belles créations digitales.
Mais
digitales.
Voilà. Comme quoi, on peut donc garder le matériel bien beau, bien léché, et qui sera certainement aussi, à un moment donné, soyez-en sûrs et certaines, victimes d'obsolescence programmée. Ce qui fait que votre système d'exploitation que vous avez payé, effectivement, Jerry Villain, ne démarra plus. Mais votre machine est encore fort belle et fort bonne.
Oui.
Bonne, surtout. Hein.
Mais c'est un système d'exploitation au sens propre, là.
Donc voilà, de là, pour revenir un petit peu sur le logiciel libre, parce qu'il y a du nouveau chez CentOS, il y a du nouveau chez Debian, ils viennent de faire une nouvelle interface. Et donc là, l'obsolescence programmée n'est plus qu'un mythe.
On peut en parler de CentOS 8 ?
Peut-être expliquer déjà.
8 ! Donc, CentOS, revenons à la base de la base. Red Hat est une distribution qui est payante et à destination des entreprises. Et en plus de ça, Red Hat fournit aussi un support qui est lui-même payant, du coup on paye à peu près 2 fois. Bon. Malgré tout, ils font du logiciel libre et en fait toutes les sources qui permettent de construire Red Hat sont disponibles. C'est comme ça que... Et en fait, il y a plein de programmes qui... ont basé leur fonctionnement sur Red Hat et du coup qui sont certifiés Red Hat compliant, et il y a même des certifications Red Hat pour les humains pour qu'ils savent utiliser correctement une Red Hat.
Mais c'est là-dessus qu'ils jouent pour se faire de l'argent. C'est donc, en plus du support, ils jouent sur le fait qu'il y a une certification, et le capitalisme adore ça, mais vraiment adore. Dès qu'il y a une certification, alors ça veut dire qu'on peut, c'est comme si on avait une assurance, quoi. S'il y a quelque chose qui se passe mal, ben hop, on va se plaindre chez Red Hat. Red Hat, oh, mais pas de souci, on va régler ça, et voilà.
Ouais.
Mais ils payent pour ce support et cette certification.
Ouais. Et donc, il y a eu quelques années, je ne saurais plus dire quand, CentOS est né. CentOS, c'est quoi ? C'est des gars qui ont pris des sources de Red Hat et qui les ont compilées, qui ont fait une distribution. La distribution CentOS. Donc, c'est une distribution qui se valait... binaire compatible Red Hat, comme ça qu'il la définissait, et ça permettait entre autres de pouvoir, si jamais on avait un logiciel qui était que compatible Red Hat, ben on n'était pas obligé d'acheter Red Hat, on pouvait l'installer sur CentOS. Chemin faisant, vers CentOS 6 ou 7, là j'ai aussi un petit trou de mémoire, Red Hat a reconnu officiellement CentOS. Et du coup, ils ont commencé à mettre des développeurs et à absorber CentOS.
C'est un peu comme avec Delphine et Albert. Ou
c'est ça, ouais. Ah, mais ils le reconnaissent, c'est mon enfant.
C'est pour faire le pont pour après, parce que j'ai effectivement trouvé...
Ah, Mais effectivement, c'est un peu comme Delphine et Albert. On dit, ah, mais mince, t'es mon enfant. Je vais te reconnaître et je vais même te financer.
Ah, ça, c'est gentil.
C'est gentil, hein.
Donc, CentOS reçoit des sous-sous de Papa Red Hat.
De Papa Red Hat, même des développeurs. Enfin, voilà.
Maman Red Hat aussi.
Ou Maman Red Hat.
Maman Red Hat, ouais.
C'est
Bref. Cette OS est dans les jupons de sa maman. Et il faut aussi mettre en perspective que IBM vient de racheter Red Hat il y a quelques mois.
Donc c'est plus Red Hat, c'est IBM.
Donc maintenant c'est IBM, voilà. Et nous venons de recevoir la semaine passée un petit communiqué qui dit « Bonjour, voilà, alors CentOS maintenant ça va devenir une bêta de Red Hat ».
Et avant c'était quoi alors? C'était juste la version libre
de Red Hat.
Mais ils n'étaient pas en avance sur...
Non, ils n'étaient pas en avance.
D'accord.
Donc voilà, ça c'est la grosse différence. Alors, faut savoir aussi une autre particularité de Red Hat et de anciennement CentOS, c'était leur temps de support. Leur temps de support était de 10 ans.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup, et donc c'est un gros avantage quand on a des systèmes qu'on va construire et qu'on n'a pas spécialement la possibilité de faire une maintenance régulière.
C'est ça, le temps de support, c'est la durée pendant laquelle il y aura des mises à jour.
Ouais.
Donc des corrections de bugs, optimisation des performances, patch de sécurité, tout ça.
Et ça, c'est assez fréquent, j'ai l'impression que dans les entreprises, on ne met pas à jour une distribution d'une version à l'autre. Je pense à des Debian qui sont encore en 2-3 versions en arrière, sachant que Debian n'est pas... ne fait pas une mise à jour tous les 6 mois comme Ubuntu, donc...
Voilà.
Bref, ça arrange tout le monde. Voilà. 10 ans, c'est bien.
Donc 10 ans, c'est bien, ça permet de faire des systèmes bien stables, bien longs, voilà. Mais maintenant, comme CentOS, la version libre de Red Hat, va devenir une bêta de Red Hat, ah ben en fait, ils ont dit que CentOS 8, alors la fin de support devait être 2029, mais en fait, ce sera 2021. Voilà, vous avez un an. Au revoir, merci.
Oups. Non.
Si.
Ah ouais, comme ça.
Comme ça.
C'est cru.
Et du coup,
c'est même pas la prochaine release n'aura qu'une durée de vie de un an.
Non.
C'est l'actuel devient fini le support de 10 ans et voilà, dans quelques mois démerdez-vous.
Ouais.
Oh bah, merci. Mais... ça s'appelle pas un peu, ça ressemble un peu au qu'on appelle ça hein. Embrace, Evolve, Extinguish.
Mais il y a une suite à ça, oui. Cette histoire.
Ah.
C'est que le créateur de CentOS, donc le gars qui a eu l'idée de faire un fork, en gros, de Red Hat, il était aussi assez déçu de l'annonce, tu penses?
J'imagine.
Et il a fait un communiqué de presse en disant, bah, si c'est comme ça, bah, je vais refaire un fork. Et parce que... ben, pour l'instant, comme Terry Rock a dit, CentOS s'est financé par Red Hat, mais il va faire un fork, j'imagine, dans l'idée de fournir un support, donc où il y aurait une organisation qui fournirait un support plus long qu'un an.
En fait, il va reprendre les sources de Red Hat et refaire une nouvelle version.
Ouais.
Enfin, refaire ce que CentOS faisait dans le passé.
Et il va l'appeler, en tout cas, l'idée, le nom pour l'instant qui a circulé, c'est Rocky Linux, en l'honneur de son ancien collègue qui... Donc, ils étaient 2-3, en gros, à faire, à cofonder CentOS. Et, Rocky, donc, lui, est décédé il y a une dizaine d'années. Et donc, il l'avait nommé en hommage à son collègue. Mais bon, pour l'instant, c'est une réaction. J'ai été voir le repo Git où il y a les sources. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant.
Non, mais voilà, il faudra un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à remettre en place. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dans leur petit descriptif, c'est ils indiquent qu'ils sont 100% bug-for-bug compatibility avec Red Hat. J'aime beaucoup.
Attends, 100% bug compatibilité.
Tu es assuré d'avoir un bug chez
Red Hat.
Ah, chez l'un ou chez l'autre.
Et que le même bug se retrouve chez l'autre.
C'est bien, c'est rassurant.
Ah, c'est beau cette fraternité quand même.
Voilà, j'aime beaucoup ce petit tour de travail. Mais voilà, ces derniers temps, j'ai un peu le sentiment, et ça c'est un avis très personnel, que le monde du livre se voit très vite galvanisé par des entreprises. On a eu le cas avec Oracle. J'ai le sentiment d'avoir ici le cas avec IBM / Red Hat. On a le cas avec Canonical. On a le cas... je vais pas faire la liste de tous les cas récents qui sont passés. Mais c'est encore, une fois de plus, un coup dur dans les logiciels libres sur le respect de ce que la communauté a fait. Et sur la manière que les entreprises respectent cette communauté.
Mmh. C'est la vision open source du libre. Enfin, si... C'est comme ça que voient les entreprises, malheureusement. Le libre, pour eux, c'est de l'open source. Et donc, c'est juste une manne des gens vont collaborer sur le truc et eux ils récupèrent le fruit et voilà quoi. Enfin, oui, c'est clair que si, c'est pour ça qu'on fait la distinction nous avec le logiciel libre et open source, c'est que dans le logiciel libre t'as l'éthique et le respect humain derrière quoi.
C'est marrant parce que tout à l'heure on parlait aussi de Debian. Justement, une des particularités de Debian, c'est au contraire de Red Hat et autres distributions du genre, c'est depuis le début, ils refusent de passer des espèces de certifications parce que je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, ces gens des certifications ISO, je ne sais pas tout quoi, qui sont, bah, j'imagine, un truc où tu dois payer quelque chose et puis tu as une espèce d'audit et puis alors tu reçois un papier avec un cachet. Le genre de papier avec un cachet que les grosses entreprises ou les institutions publiques adorent parce que, comme tu disais, HGE, ça crée l'illusion de la garantie ou je sais pas quoi. Debian a toujours refusé ça. Ils ont toujours dit, nous, on fait du logiciel de qualité, on n'a pas besoin d'avoir une espèce de instance supérieure qui va venir nous dire qu'on a bien fait notre travail et que oui, notre logiciel est de qualité. Et Debian, c'est quand même aussi une distribution qui équipe quand même, une, je sais pas moi, il n'y avait pas des chiffres, genre 60% de serveurs web tournent avec du Debian, mais ou 30%, enfin je sais pas, mais une quantité quand même astronomique par rapport à ce que c'est que les internets.
De ce que je me souviens, c'était 30% Debian, voilà. 25% Red Hat, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça.
Et encore quelque chose pareil pour Ubuntu.
Et c'est rigolo parce que du coup, ça reste une distribution qui, dès le départ, se dit voilà, on risque de faire du logiciel de qualité, ça risque d'intéresser beaucoup de particuliers, entreprises, organisations, que sais-je. Mais on va refuser, ça date de l'époque de Ian Murdoch et Debbie ou Deborah, je sais pas comment elle s'appelait, sa compagne ou amie avec qui ils avaient créé Debian. Ça, on refusera toujours de rentrer dans ce jeu des certifications. Parce que tu commences à rentrer dans ce jeu des certifications, alors du coup, ben, tu deviens peut-être un peu plus intéressant pour des boîtes là, IBM, Red Hat, Oracle ou que sais-je, parce que voilà, ça fait de toi une sorte de produit officialisé.
Ouais. Oui, c'est, et puis tu rentres beaucoup d'argent du coup. Enfin bref.
Allez, je peux vous donner les chiffres du W3 Tech. Donc, nous avons en termes de part de marché Ubuntu avec 47,7% pour les serveurs web. Donc ça, à chaque fois, pour les serveurs web.
Ouais.
Et donc on a Ubuntu à 47,7%, CentOS avec 18,8% et Debian avec 17,5%.
Ah, d'accord. Voilà. Et Ubuntu, il n'est pas basé sur Debian, alors juste. Enfoiré d'Ubuntu.
Justement, c'est pas pareil, parce que Ubuntu, derrière le truc, enfin, c'est déjà un peu plus commercial, j'ai l'impression. Le chemin qu'ils ont pris, c'est pas... Je sais pas s'ils font des certifications, je ne pense pas. Mais il y a déjà plus de partenariats. Je repense à avec ce fameux partenariat Amazon il y a une dizaine d'années qui avait soulevé beaucoup de qui avait soulevé beaucoup de cris de levée de boucliers. Voilà.
Bah oui, mais levée de boucliers de la part de, on va dire, d'amateurs de logiciels libres pour leur côté vraiment essentiellement libre en termes de valeur éthique et morale, pas spécialement pour le côté open source, opportunité de faire du libre un chouette outil de base avec lequel on va aussi faire un joli produit commercial en bafouant un peu aussi les fondements de pourquoi on souhaite que les logiciels restent libres et soient des logiciels libres. C'est ce qui est arrivé avec Ubuntu et son moteur de recherche là, où quand tu tapais dans ta barre de recherche bonbons et chocolat, t'avais des suggestions de fait de Amazon ou eBay ou je sais plus de qui. Ce qui voulait dire que bah voilà, ton OS communiquait directement dès que tu tapais dans ta barre de recherche avec le reste du web.
J'avais pensé à un autre OS qui fait ça aussi.
Oh, il y en a plein qui font ça. Hein.
En parlant de logiciels qui doivent rester libres, ça me fait penser au Parlement allemand qui veut essayer, enfin qui essaye à nouveau de faire passer des brevets logiciels. Je ne sais plus exactement dans quel contexte c'était, parce que ça concerne l'Europe en fait. Mais donc tout récemment, le Bundestag, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Bundestag. Un truc comme ça.
Ouais, un truc comme ça. a fait une proposition de loi, je crois, que je ne suis pas sûr si elle a été votée ou pas. où en fait, l'idée c'est de définir ce que c'est un brevet unitaire. Et dans le brevet unitaire, tu aurais une notion de brevet logiciel. Et donc, qui dit brevet logiciel dit code encore plus que propriétaire, en fait. C'est-à-dire que tu pourrais pas l'utiliser. Enfin, par exemple, un exemple de brevet logiciel, c'est les MP3. Mm-hmm. Les MP3, la technologie a été pendant tout un temps brevetée, mm-hmm. en tout cas aux États-Unis, parce qu'en Europe, cette notion n'existe pas. Et donc, il fallait payer des royalties pour pouvoir utiliser cette technologie de MP3.
Dans ton baladeur MP3 que tu voulais créer.
Et ça a ralenti pas mal l'évolution technologique du secteur, parce que on était coincé avec ce MP3 qui pouvait pas évoluer non plus, parce que la technologie fait que voilà. Et ce brevet avait été en plus renouvelé d'année en année, parce que les brevets logiciels, et n'importe quel brevet d'ailleurs, est renouvelable. Et il y a que, je crois, 5-10 ans que c'est enfin tombé, que le brevet ne pouvait plus être renouvelé. Et donc, ça a enfin permis la libération, si tu veux, des appareils qui peuvent lire du MP3 ou des logiciels même, en fait, parce que si tu voulais un logiciel libre qui lise du MP3, il pouvait être installé en Europe, mais pas aux États-Unis. Alors comment tu fais quand t'es un développeur? Tu dis, alors nous on le développe que pour les Européens, hein, regardez pas. Enfin bref. Mais donc cette notion revient à la charge, ça fait donc 2-3 fois qu'ils essayent en Europe de faire passer ça, et les dernières fois ça avait pas marché.
Ouais, mais là c'est passé. Hein.
C'est passé.
Parce que l'article de la FFI.fr fait un appel à donation contre les brevets logiciels unitaires après le vote désastreux du Bundestag. Ouais. Il demande effectivement à toutes les entreprises du logiciel ainsi qu'à la communauté du logiciel libre et de l'open source de pouvoir faire des dons avec les petits sous qui restent, qui ne partiront de toute façon pas dans des milliards de cadeaux, parce qu'on ne peut pas être plus de deux au-dessous du sapin. Et donc il y a du pognon, il faut savoir où aller, il faut aller le chercher. Parce que donc
là, ils veulent sous le sapin le pognon.
Ils veulent pouvoir déposer une plainte constitutionnelle.
C'est
car
ça.
La Cour de justice unifiée dédiée aux brevets va promouvoir les trolls sur les brevets et les destructions d'emplois par ailleurs, sans que la Cour de justice de l'Union européenne puisse avoir son mot à dire sur le droit des brevets et les brevets logiciels en particulier. Et donc seule la Cour constitutionnelle de la Karlsruhe peut tenir à l'abri cette légèreté.
C'est ça. Donc en fait, il y a encore un moyen de recours. Mais ça va demander des sous, et donc ils font un appel pour financer ce recours, enfin cette demande de recours. J'imagine un tel recours, parce que si c'est une cour constitutionnelle, ça prend dans les 2-3 ans. Donc ça va être d'application, mais ça va être le bordel, ouais. Quoi.
Biom, est-ce qu'on se fait une petite intro pour parler quand même aussi de bonnes nouvelles, mine de rien, comme on va passer de fête de fin d'année à...
Ouais, là, il y a Thierry, il tire la gueule.
Et, et donc, je vous laisse un petit quart d'heure entre les mains de Pouillou. C'est ça qui se dit, Pouillou. Et de l'équipe de médias qui vont vous entretenir de ce dont j'ai envie de vous parler juste après. Et puis, nous aurons la Brabançonne.
Une autre guerre maintenant, celle du numérique avec toi, Théophile. Tu reçois un certain Pouillou qui est à ma gauche pour parler avec lui alors d'alternatives aux GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon.
On pourrait même dire les GAFAM en rajoutant Microsoft. Bonjour Pouillou. Bonjour. Je note au passage que Pouillou est ton identité numérique et non pas ton nom à l'état civil. Tu es le responsable de la communication de Framasoft, qui est une petite association française, tu me corriges si je me trompe, qui se pose sur plusieurs services du quotidien, en alternative aux GAFAM, donc selon des règles de gouvernance bien entendu, totalement différentes. Je vais citer quelques-uns de ces services pour donner une idée plus claire de ce que vous faites à nos spectateurs. Il y a Framapad, qui est une alternative à Google Doc, on peut dire.
Tout à fait.
Il y a Framacalc, qui est une alternative à Excel, et il y en a plusieurs autres comme ça. Et la particularité de ces alternatives, c'est qu'elles sont libres, c'est-à-dire que les codes sources des logiciels de Framasoft sont ouverts, ils peuvent être utilisés gratuitement et même reconfigurés.
Tout à fait.
Par qui le souhaite. Derrière, il n'y a pas de logique capitaliste, dans la mesure où ils ne sont pas censés produire des bénéfices pour des patrons ou des actionnaires.
Ce sont des communs.
On en parlera au cours de cet entretien, mais on parlera d'abord de PeerTube, l'alternative à YouTube que vous êtes en train de construire et pour laquelle vous avez lancé une collecte de fonds citoyenne, une opération de crowdfunding, comme on le dit. Alors, voilà, c'est pour ça que vous êtes là, pour en parler un peu. Alors, pour bien faire comprendre la différence que constitue PeerTube, je te propose d'être assez pédagogique et de nous dire en quoi il est différent de YouTube et de Dailymotion. Alors, je vais donner certaines de ses caractéristiques et tu vas les expliciter. Okay. Premièrement, PeerTube est libre. Ça veut dire quoi? Un service de vidéo à la demande libre.
En fait, c'est pas PeerTube qui va être libre, c'est nous, les utilisateurs, les utilisatrices. C'est-à-dire qu'il y a une licence libre qui respecte nos libertés fondamentales. La liberté de l'utiliser comme on veut, c'est-à-dire que si à un moment donné, le Média TV veut installer son instance PeerTube, ben, vous avez d'ores et déjà le droit légalement. La liberté de le modifier, vous pouvez aussi l'adapter à vos besoins, si vous le désirez. Par exemple, la liberté de l'étudier, d'aller voir sous le capot. Alors moi, je sais pas coder, donc voilà, mais j'ai des amis qui peuvent y aller. Et ça veut dire que ça, y a une transparence du logiciel. Ça veut dire qu'il est publiquement auditable.
C'est quoi une instance PeerTube?
Une instance PeerTube, en fait, c'est si le Média TV installe son instance PeerTube, vous aurez vos vidéos sur votre instance. Et Framasoft a son Framatube qui a c'est ça. Et c'est comme si on se faisait son petit YouTube maison, entre guillemets, et où on prend la place de Google, on prend tous les pouvoirs et toutes les responsabilités.
Alors, j'arrive à une deuxième caractéristique, PeerTube est décentralisé.
Oui.
C'est à peu près ça.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que on voit bien que Google est devenu complètement hégémonique. Ils ont créé une espèce d'ORTF 2.0 au niveau de la vidéo. Et Google impose des règles aux personnes qui, aux créateurs et créatrices de vidéos, et impose des règles de manière complètement unilatérale parce qu'il n'y a que eux, entre guillemets. Le problème, c'est que Google a centralisé toutes les créations, toutes nos attentions. Et en plus, pour faire comme Google, il faudra avoir les moyens de Google et héberger les vidéos du monde entier. C'est juste pas possible si on veut démocratiser ça.
Et donc, qu'est-ce que vous avez choisi de faire à la place?
Justement, de décentraliser, de dire, plutôt qu'il y ait un grand géant qui, comme ça, ait une cloche au-dessus de tout le monde et qui impose sa vision capitaliste au monde entier, on peut être plein de petits interconnectés entre nous et créer chacun son tube à soi, son instance PeerTube, mais les fédérer ensemble, c'est-à-dire faire en sorte que ces instances se parlent, puissent montrer les vidéos des uns des autres et partager comme ça, au lieu d'avoir une grande ferme de serveurs à la Google, avoir chacun nos petits serveurs interconnectés. C'est la base du web, en fait.
Une espèce d'agriculture locale, hein, c'est ça?
Ah, mais on est totalement sur le réseau d'AMAP, par exemple, tu vois, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, on est vraiment dans cette idée-là de, plutôt d'avoir un géant hypermarché, faisons de l'Internet artisanal, local, où l'humain et la relation humaine redeviennent importantes.
C'est pour ça que vous dites que PeerTube est fédéré, parce que oui, c'est une fédération de petits serveurs qui utilisent tous le même logiciel et qui s'entraident.
Et qui parlent la même langue. C'est-à-dire que cette langue de fédération, c'est aussi celle qui est utilisée par Mastodon. J'ai vu que vous avez un compte Mastodon sur Mammoth. Mastodon, c'est une alternative libre et fédérée à Twitter. Et bien en fait, la langue de fédération que parle Mastodon, ça s'appelle ActivityPub, c'est la langue de PeerTube. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pourrez commenter des vidéos PeerTube avec votre compte Mastodon, comme si vous pouviez commenter du YouTube avec votre Twitter. Voilà. Et là, le libre peut même aller plus loin que les solutions propriétaires et enfermantes.
Alors, la question qu'on se pose, hein, quand on parle de vidéo à la demande, c'est la montée de charge. Parce qu'en fait, par exemple, le média met en ligne une vidéo et elle explose plusieurs centaines de milliers de vues potentielles. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le système de fédération fait que le serveur, par exemple, de Framasoft peut venir au secours du serveur du média s'il est surchargé?
Pas encore. Faut se rendre compte que PeerTube est en version bêta depuis mars. Il y a une centaine d'instances, 10 000 vidéos. C'est un grand test à l'échelle publique et ça marche. Là, justement, on a fait ce financement participatif pour l'améliorer. Et c'est une des améliorations que l'on espère pouvoir financer avec ce financement. Mais d'ores et déjà, ce qu'il y a en place dans PeerTube, c'est le fait de pouvoir visionner des vidéos en pair à pair. C'est-à-dire que quand une vidéo a du succès et que plusieurs personnes la regardent en même temps, non seulement elles reçoivent des bouts de la vidéo depuis le serveur, mais elles s'en partagent entre elles, parce que nos navigateurs savent faire ça de manière totalement claire.
En gros, le média publie une vidéo,
oui.
Quelqu'un à Montreuil la regarde,
oui.
Et quelqu'un à Bagnolet veut la regarder, Et celui de Montreuil, en fait, le fait qu'il ait stocké une partie, un bout de la vidéo, avec d'autres, en fait, ce sont les ordinateurs de ceux qui sont à Montreuil, à Bagnolet, qui aident celui qui
échange des petits morceaux de vidéo comme ça et qui permettent d'avoir une grande fluidité, parce que, bah, encore une fois, plutôt que d'avoir un serveur central et tout le monde va dans son tuyau et forcément ça fait un engorgement, eh bien, on va partager nos tuyaux et nos connexions Internet. Là aussi, c'est une des bases à l'origine d'Internet. Hein. Le peer-to-peer est beaucoup plus efficace que le streaming. Techniquement, c'est bien meilleur, on le sait.
Absolument. Alors, une question plus politique. Pourquoi est-il indispensable, tu as déjà commencé à y répondre un peu, de créer une alternative à Google, à YouTube et à Dailymotion? Finalement, on peut dire, ça fonctionne bien, pourquoi changer?
Ben, pourquoi changer? Il y a vraiment quelque chose de politique derrière. Bon, techniquement, c'est aussi une catastrophe au niveau écologique et tout ça, mais là, je suis pas très bien placé pour en parler. Je suis pas spécialiste de la question. Mais politiquement, il y a de très très gros problèmes. On l'a vu récemment avec les YouTubeuses, qui voulaient parler de leur corps, de sexualité, etc., et qui se sont faites entre guillemets censurées par YouTube et qui ont protesté avec le hashtag Mon Corps sur YouTube, ou très récemment la fondation Blender qui promeut un logiciel 3D libre qui fait voilà, et donc ils font des dessins animés en 3D sous licence libre, qui se sont fait censurer leur chaîne parce qu'ils ne veulent pas monétiser leurs vidéos.
Alors ça pourrait arriver aux médias parce que nous monétisons pas nos vidéos.
Et voilà. Et il fallait signer une nouvelle convention YouTube parce que bah YouTube sortait son YouTube Premium ou YouTube Music, je sais plus. Et ils ont pas signé parce qu'il fallait monétiser derrière. Et donc ils se sont un peu fait couper leur chaîne. Et alors là ils sont toujours en pourparlers. Mais en attendant, ben la fondation Blender a monté son instance PeerTube. Et à la limite ils peuvent continuer à avoir et leur chaîne YouTube et leur chaîne PeerTube le temps que ces alternatives, qu'il y ait une transition qui se fasse vers des solutions éthiques.
Alors, avant l'émission, tu m'as expliqué que avec les développements qui arrivent sur PeerTube, le tube du média, par exemple, pourra choisir de communiquer et de rendre des services à des tubes différents de personnes avec qui ils partagent les mêmes valeurs et donc avec qui ils peuvent aussi faire une sorte de partage de serveurs. Par exemple, on pourra choisir d'être dans une sorte de collaboration avec des médias alternatifs avec qui on veut bien partager notre capacité, notre bande passante.
C'est justement au niveau du financement participatif. Donc là, il est réussi. On sait qu'on aura de quoi financer la V1 de PeerTube pour octobre prochain. Et c'est une V1 où il y aura des fonctionnalités de base, genre pouvoir mettre des sous-titres sur les vidéos. Pour l'instant, c'est pas possible techniquement. Mais si on arrive à des paliers supplémentaires, on espère notamment, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, la redondance des vidéos. C'est-à-dire que imagine, voilà, tu veux soutenir PetitTube. Eh bien, tu pourras dire, leurs vidéos, je les mets un petit peu dans un coin de mon serveur, et comme ça quand eux ils sont en panne ou quand leur serveur il arrive pas, il a pas la puissance qu'il faut, mon serveur prendra le relais, et il y a ce principe de solidarité qui est au cœur du logiciel libre de toute façon.
Alors vous avez dit que le crowdfunding est déjà, enfin certains objectifs ont déjà été atteints, mais en fait si vous avez plus de sous vous irez plus loin. Est-ce que vous voulez lancer un appel dans ce sens? Comment en tant que utilisateur, en tant que producteur de contenu ou en tant que, je sais pas, mécène ou annonceur, d'ailleurs, peut-être que c'est un gros mot chez vous, comment on peut soutenir
Ah, ça c'est quand ça lague un petit peu. C'est quand il y a effectivement juste une personne qui fait du flux. Alors l'idée ce serait quoi, de revenir un petit peu en arrière
et puis de repartir un petit peu en avant. Le crowdfunding est déjà, certains objectifs ont déjà été atteints, mais en fait si vous avez plus de sous vous irez plus loin. Est-ce que vous voulez lancer un appel dans ce sens? Comment en tant que utilisateur, en tant que producteur de contenu ou en tant que, je sais pas, mécène ou annonceur, d'ailleurs peut-être que c'est un gros mot chez vous, comment on peut soutenir
Eh oui, effectivement. Alors là, on va dire merci à Monsieur Philox, car c'est bien sur son instance PeerTube que se trouve cette vidéo. Vous aurez l'opportunité de la retrouver en utilisant précisément un nouveau moteur de recherche qui vient de sortir. Donc PeerTube-index était déjà bien en place et permettait de fureter, de lancer des requêtes parmi les 619 instances de PeerTube qui existent. Sepia et le nouveau petit nouveau moteur de recherche qui vient d'arriver, c'est justement l'équipe de Framasoft dont fait partie Pouillou qui l'a sorti. Sepia Search en anglais, hein, .org. Sepia Recherche, oui voilà, hein, Sepia Search. Et c'est une nouvelle possibilité d'aller rechercher et ben du contenu vidéo que vous aurez peut-être besoin entre le 24 et le 31 décembre prochain si vous êtes amené à devoir passer un réveillon avec pas beaucoup de monde et que bon il faut être 8 pour lancer un bon munchkin, mais hein, y a pas mal de jeux de société qui tournent moins bien quand on est à deux, mais se mettre dans un bon canapé avec des bons zakouskis et tout ce qu'il faut pour passer une petite soirée télé libre devant les logiciels libres, parce que c'est ce que j'avais cherché en fait dans ces pièges, j'ai tapé logiciel libre et je suis tombé sur cette vidéo de Pouillou qui était passée donc dans le média et qui permettait à ce moment-là de lancer, de rappeler une fois de plus que il n'y a pas que YouTube dans la vie. Et non, il y a Peertube sur le côté et son mode de fonctionnement décentralisé avec différentes instances et différents types de contenus comme venait de le préciser maintenant Pouillou. Donc il y a des rassemblements d'idées, des concentrations de personnes et ce genre de petites choses qui font que ben voilà, parfois c'est pas facile de chercher parce que c'est facile de chercher maintenant, c'est pas facile de trouver, plutôt on va le dire dans ce sens-là.
Oui, surtout avec la galaxie des Peertube qui est en train de s'installer à droite à gauche.
Ouais.
C'est quand même pratique de pouvoir
sepiasearch.org. Et alors ben voilà, Philox, un de nos camarades libristes, a donc mis son instance en route. Et voilà, la viralité de certaines vidéos fait que dans le peer-to-peer, ben plus on est de fous, plus on rit.
Vraiment. Et plus on partage.
Et plus on partage du coup. Mais c'est parce que là, il y a un petit blanc qui s'est introduit
octobre.
Dans la vidéo. J'essaye de retrouver le point de départ. Ah non, c'est voilà, on s'est arrêté à 9 minutes 12 et on aurait dû arriver jusqu'à 14 minutes 17.
Oui, je pense que ça va aller, tu sais.
On trouvera.
Ouais, là, c'est le fait que c'est la fin, quoi, qui justifie les moyens. Voilà, l'affaire Peertube, une alternative libre à YouTube. Et on sait maintenant que se faire du pognon quand on est youtubeur, c'est devenu un peu plus difficile. Parce que l'algorithme a un peu changé. Ce n'est pas le fait de regarder une vidéo. Maintenant, je sais, c'est au niveau du timing aussi.
Ouais, il y a plein de changements. Il y a encore eu un lobbyisme bien plus puissant des publicitaires pour rendre le contenu avant ou après leur pub plus compliant.
Ouais, il y a aussi un truc non négligeable, c'est que maintenant YouTube, enfin Google...
Alphabet.
Quoi?
Alphabet.
Non, Google, enfin bref, te pousse gentiment, aimablement, à te créer un compte à chaque fois que tu regardes une vidéo. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est énervant. Même si tu acceptes tous leurs cookies, ils vont te dire « Non, mais allez, quand même, allez, quoi, c'est sympa, ouvrez un compte. » Et pourquoi? Ben parce que derrière, ils ont ouvert il y a un an, je pense, enfin un peu plus sans doute, mais officiellement il y a un an, leur compte premium, qui permet de, si on paye, eh ben on n'a plus la pub. Ah oui, mais bon.
Il faut pour ça, quoi.
En attendant, si t'as un compte, ben ils prennent tes données et ils les revendent aux annonceurs. Donc c'est le serpent qui se mord la queue et c'est Google qui fait le profit. Alors, sinon, je vois qu'il y a un Thierry, il essaie de transformer là dans le studio.
J'entendais le petit blanc. Allez. Et je me dis, bon, je vais prendre ma chance, tenter ma chance.
Donc c'est Peter, hein, pour ceux
qui ne reconnaissent pas la voix. Et aussi une alternative pour toujours consulter du contenu YouTube, mais sans YouTube, il y a InVideos. Oui, il y a un front-end, qui est une alternative de site web qui donne accès aux vidéos YouTube, mais sans,
ouais, donc
sans
ça...
historicité, sans le fait de garder en mémoire toutes les vidéos que vous auriez visionnées sur YouTube et qui vont donner bien sûr un profil, parce que quand vous passez de Mercedes à Bugatti, c'est pas quand vous passez de Lada à trottinette.
Je vois pas où est le problème.
J'ai compris. Mais en gros, donc on se connecte sur le site, une des instances, donc un des sites de InVideos, Et en fait, Invidious, c'est lui qui va faire les requêtes à YouTube et nous présenter la vidéo. Et surtout, donc, on n'aura plus l'interface de YouTube, mais celle de Invidious. Et il y a un plugin Firefox qui permet de remplacer les URL de YouTube par l'instance Invidious qu'on de notre choix. Mm-hmm. Donc c'est aussi c'est chouette.
Et heureux utilisateur utilisatrice de Firefox. Parce que
ah, il y a d'autres
navigateurs. Moi, je ne connais pas.
Moi non plus.
Et un autre avantage aussi d'Invidious, c'est qu'il est pensé pour garantir un peu votre vie privée. Et donc, c'est plus votre navigateur qui va contacter directement YouTube, mais l'instance Invidious qui va contacter YouTube et vous l'envoyer. Donc, ce qui permet de noyer plus votre visionnage dans la masse des gens de l'instance Invidious.
Alors qu'avant, quand on recevait un lien vidéo YouTube, il fallait copier invideo.us à la place de youtube.com. Et bien maintenant, avec Invidition, que vous pouvez installé dans votre super navigateur Firefox, eh bien, cette translation se fait automatiquement. Vous gagnez un temps fou. Voilà, Invidition. Allez dans les préférences, petit menu hamburger de Firefox. Prenez l'onglet module complémentaire et là-dedans, vous cherchez Invidition. Vous l'installez et à ce moment-là, vous verrez toutes les vidéos YouTube. Donc là, on est dans du flux. C'est du flux tendu, hein, ça c'est pour regarder le streaming habituel, mais ne pas donner votre petit centime à cette grosse multinationale qui a quand même un petit peu une spécialité, ou pour l'optimisation fiscale, allez, c'est le dernier euphémisme 2020, et accessoirement un peu de transhumanisme sur le côté, mais bon, ça c'est au choix. Comme vous voulez, soit c'est économique, soit c'est politique, soit c'est éthique.
J'ai encore, ça me fait penser d'ailleurs avec Invidious à... la même chose si on veut, mais pour Google, donc pour le moteur de recherche, c'est Search, S-E-A-R-X. Il y a une instance en .be, donc Search.be. Et en fait, c'est un méta moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on fait la recherche comme on ferait sur, par exemple, Google, DuckDuckGo, que sais-je. Mais il va envoyer sa requête à par exemple derrière donc Google, et donc c'est le serveur qui fait la requête, et donc c'est le même principe que pour Invidious. Il va masquer en fait l'adresse IP de la personne qui fait la recherche, et ça marche plutôt bien, et voilà. Je sais pas,
plein de bonnes, voilà, y a pas grand chose suggestions, des bons petits cadeaux à mettre sous le sapin. Ouais, Peter, t'avais, je te vois,
c'est pas fédéré aussi, non?
Ça, je ne suis pas sûr.
Ou en tout cas, c'est libre et il t'invite aussi à
l'installer. Tu peux l'installer sur ton serveur, ouais, sans problème, ça. Ouais.
T'avais ton instance. Ou...
Pour ça, je dis, il y a un point .be, mais il y en a d'autres que je connais pas forcément. Mais...
C'est dingue. Hein. Toutes ces bonnes résolutions pour 2021. Voilà, il suffisait d'écouter le 92.1. Et en forme pour 2021.
Et alors, encore autre chose, mais qui est plus à destination des développeurs et des sites web qui plaisent à un reCAPTCHA. Donc, reCAPTCHA, c'est le petit module qui vous demande de dire que vous n'êtes pas un robot, que vous êtes bien un humain.
Et pas l'inverse.
Ah, mince. Si on se rappelle de la version 2, c'était celle avec du texte, et ce qui permettait à Google de faire de la détection de texte sur les livres. Et puis maintenant, dans la version 3, c'est plutôt sur la détection de cette débouche d'incendie, des feux rouges. Donc, quand on met ça en parallèle avec les Google Cars qui sont en train de développer, ça fait tout son sens. Ah. Mais une alternative qui est plus proche des valeurs et qui est tout autant efficace que la version de Google, c'est MTCAPTCHA, qui se veut une version... respectueuse de votre vie privée. Et du coup, je vous laisserai un peu regarder qu'est-ce que c'est, mais ça fait exactement la même chose, ça a plus ou moins les mêmes taux de détection, mais sauf qu'on vous demande pas de contribuer à ce grand consortium qu'est Google.
Ouais, à aider Google à faire des voitures qui écrasent plus facilement, qui évitent plus facilement
les poteaux.
Ça me fait penser à un comic strip, c'était en trois cases, où t'as un robot qui navigue sur, vraiment un robot humanoïde, qui navigue sur Internet, Et là, il tombe sur un site web qui fait prouver que vous êtes un robot. Et du coup, il répond il n'y a plus d'humains. Et puis la dernière case, c'est ils sont tous. T'as l'ordinateur qui fait ah 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 et le robot qui fait ah 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 ah. Voilà. C'est con, mais j'aime bien.
Oui, ça va être une belle époque. En tout cas, avec toute cette électronique de bord. Ça, si on avait eu le code source, peut-être que le scandale avec les voitures Volkswagen du carburateur un petit peu truqué ne serait pas arrivé.
Hein. Ah oui, le truc diesel.
Ouais. Le dieselgate. Bon, un petit moment plus cérémonial, par exemple.
On peut essayer.
On peut, hein, si on se mettait tout doucement, c'est bientôt la fin de l'année. Hein.
J'ai peur.
Allez.
Chère auditrice, cher auditeur, cher citoyen, chère citoyenne, c'est le mot de fin d'année. Nous voici réunis pour la dernière émission de Source. Cette année a été riche en événements.
Oh oui.
Par exemple, nous avons les Gnuragis qui ont rejoint Campus dans l'aide à leur apporter des solutions libres. Merci, merci. Je savais pas qu'on avait autant de pêche dans la Brabançonne. Nous avons un petit Frilux que de temps en temps échange sa place avec moi-même et parfois même est absent des émissions de Source. Oui, c'est possible, le taulier peut être absent. Et il peut même être absent sur les internets parce que même le compte Mastodon de Source est partagé. Mais nous avons aussi vu fleurir des super services avec beaucoup de garanties. Nos pauses café se font sur Teams, nos apéros sur Zoom, nos enterrements sur Facebook, nos danses sur Twitch et beaucoup d'usages très étonnants. Drôle d'époque. Mais on nous rappelle au combien voir un data center d'Amazon tomber empêche votre aspirateur de s'orienter dans votre pièce. Votre porte qui refuse de vous reconnaître et de vous ouvrir la porte. Votre petit Alexa, vous lui demandez « Alexa, éteins la lumière de la chambre ?» Désolé, nous pourrons répondre à votre demande et devoir dormir toute la nuit avec cette foutue lampe allumée. Mais plus récemment, c'est Google Home qui est tombé. Ça a été très drôle. On a vu plein de personnes qui ne savaient plus pendant une heure et demie faire quoi que ce soit. Plus de YouTube, plus de Google Cloud et ainsi de suite. Même des services un peu étonnants, par exemple Discord, ne fonctionnaient plus. Mais je vous rassure, ce sentiment d'addiction, même les fumeurs l'ont. Et c'est que quand on ne l'a plus, qu'on se rend compte que nous sommes addicts. Bon, ici c'est pas l'effet de la déprime. On essaye de faire moins de bashing des GAFAM. Sorry, on s'est dit ça un vendredi. Mais on a vu des beaux projets évoluer. Par exemple, on a vu Jitsi, qui a eu une bien meilleure intégration dans les navigateurs. On a vu des Scalaway qui ont proposé des instances Jitsi gratuitement. On a vu même Bellnet créer une instance Jitsi. Et je vous parle même pas de Big Blue Button qui, lui, a vu plein de tutoriels fleurir. Aujourd'hui, on a de plus en plus de contenu qui permet d'utiliser les logiciels libres, que ce soit dans des exemples, dans des démonstrations ou dans des tutoriels. Et donc, présentement, on a un nouveau regard et on apporte des solutions décentralisées à ce que nous traversions tous et toutes. Et c'est chouette pour nos outils digitales.
Le troll.
J'ai le sentiment qu'on le prend de plus en plus conscience de cette décentralisation. Donc, c'est vrai, les solutions centralisées sont faciles, sont chouettes, c'est tout de suite fonctionnel, mais dès que ça en panne, ça impacte des milliers, voire des millions de personnes. Alors que les solutions décentralisées impactent beaucoup moins de personnes, peuvent être plus proches, plus respectueuses et surtout bien plus humaines. Et je vous rappelle un peu en cette fin d'année que énormément d'humains sont derrière le logiciel open source, énormément d'associations, et qu'il y a beaucoup de temps qui est donné, et parfois faire un petit don, que ce soit à votre distribution, ou aller voir votre GNU Linux meilleur ami, pote, humain, parfois robot, et lui offrir un petit café, une petite bière, c'est quand même chaleureux. Mais c'est vrai, dans ces temps où la seule chose où on a le droit de toucher, c'est notre clavier ou notre débilophone, c'est un peu compliqué de les serrer dans les bras. Alors pour cette fin d'année, et surtout pour la suivante, je vous souhaite à tous et à toutes énormément de contacts sociaux. Essayons de retrouver cette fibre qui fait le ciel libre et qui fait qu'on continue.
Il a fait de grandes études dans des domaines que tu peux pas comprendre pourquoi tu la ramènes. Lui, il sait tout sur tout, il n'a que des chiffres en tête, ni des sens ni morale, jamais rien ne l'arrête. Les jours heureux, la sociale, le CNR, ces trucs de bolchevique, il va tous les défaire. Pour lui, tout ça, c'est vieux et ça sent la poussière. Il veut plus de riches et plus de misère.
Il est libéral, néolibéral. Il y en a même qui disent qu'on l'a vu nous voler.
Aéroport, retraite, santé, tout doit y passer. Rien dans les communs ne saurait rester. Lui, il sait mieux que nous et il en a décidé. Tu peux toujours aller, ça le fait bien marrer. Il va et vient entre capital et ministère. Il faut bien réseauter, il n'en fait pas mystère. Pour bien saigner la bête, la femme et jusqu'à en faire une proie si facile pour les amis banksters.
Il est libéral, néolibéral. Il y en a même qui disent qu'on l'a vu nous voler.
Si tu veux l'ouvrir, il va te la refermer. Un grand coup de matraque, tu l'as bien mérité. Pour qui te prends-tu, tu es bien mal informé. Elle n'est que pour les marchés, sa liberté. Il ment comme il respire pour te justifier. Face aux cracks, aux révoltes ou aux méchants virus. C'est jamais de leur faute à ces financiers. C'est à cause du pas de bol ou alors c'est les Russes.
Il est libéral, néolibéral. Il y en a même qui disent qu'on l'a vu nous voler.
Pour lui, qui sait, il n'y a pas d'alternative. Si tu penses autrement, t'es bête ou malhonnête. Avec tes beaux discours et tes idées bien naïves, saurais-tu mieux que lui cramer la planète.
Il est libéral, néolibéral. Libéral, néolibéral. Il y en a même qui disent qu'on l'a vu nous voler.
Alors oui, bien sûr que non. Nous devons une fois de plus le rappeler. En tant que chansonnier, nous sommes obligés de forcer un peu le trait. Car bien évidemment, le néolibéral est-il cette bête sanguinaire, hein, assoiffée de sang? Bien sûr que oui. Non, faut pas être vindicatif comme ça, non. Bon voilà, c'est un système, ce n'est pas contre l'individu lui-même. Hein. Peut-on lui en vouloir? Telle est la question. Après tout, pourquoi s'intéresserait-il au commun? Pourquoi participerait-il au commun? C'est un homme qui s'est fait tout seul. Le néolibéral, il est né dans la jungle, au milieu des loups. Personne ne l'a jamais torché, personne ne l'a jamais soigné, personne ne l'a jamais éduqué. Il s'est fait tout seul. Il n'a donc pas besoin du commun, je vois pas pourquoi il participerait au commun, c'est bien naturel. De toute façon, nous sommes son ennemi. Le néolibéral ne voit en tout humaniste qu'un jaloux. Si tu penses qu'on peut vivre de façon fraternelle, c'est que tu n'es qu'un jaloux. C'est parce que tu n'as pas ton yacht. Ah oui, c'est pour ça. C'est bien naturel. Puisque tout le monde rêve de yacht. Tout le monde. Moi, tous les gens que je connais, la première chose qu'ils me disent le matin, si j'avais un yacht. Bah bien sûr, je comprends pas trop moi cette religion, j'ai des trucs entrepreneur, moi j'ai rien contre, hein, j'en suis un, c'est pas contre l'individu, mais je comprends pas très bien cette religion qu'en fait l'alpha et l'oméga de toute vie économique sur Terre. Un entrepreneur c'est quelqu'un comme un autre, un agent économique de ce monde impitoyable, comme un autre. Bon, l'injustice fait que parfois il a beaucoup plus d'argent que les autres, mais ça, Ce n'est que la jalousie qui me fait parler, bien entendu. Ils créent de l'emploi. Ah oui, c'est ça, dans leur religion, ils créent de l'emploi. Ils créent pas de l'emploi. Ton boulanger, tu vas pas dire qu'il crée de la farine. Il achète de la farine, c'est la matière première, il la travaille, il en fait quelque chose et qu'il en tire un bénéfice. Bon, bah, l'entrepreneur, il achète du travail, il fait des services, des biens, il ajoute de la valeur, paf, il fait des bénéfices. Ça ne dirait pas à l'idée de dire que ton boulanger, il crée de la farine, non, il achète de la farine. Bah, l'employeur, c'est pareil, il achète du travail, il crée pas de l'emploi. Cette chanson ne vise personne, hein. Ah non, personne. Non, oh là là, et oh. Non, personne. Ah non, ça vise personne en particulier, hein. C'est... Non. Ah non, non, non. Ah non, ah non, non. Non.
Il a fait de grandes études dans des domaines que tu peux pas comprendre pourquoi tu la ramènes.
Voilà, JC Frog, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne aperi.tube. Il a toute une série d'autres petites chansonnettes qu'il a légèrement transformées pour les rendre un petit peu plus accessibles au commun des bordels.
Et en parlant de bordels, il y en a de plus en plus sur de la table.
Oui,
bonjour,
voilà.
Nico.
On a des gnuragistes et on a du haclab. Waouh.
C'est pas les mêmes.
Du Nutrinette. Alors voilà, on va un petit peu et un peu de BX Lug.
Bah, bon, c'est les mêmes aussi. Attends.
Il nous manque un peu de Nubo. Il nous manque petite singularité. Voilà, ça c'est pour le dresser un petit.
Non, je suis pas d'accord. On a même du PS ici.
Oui, c'est pas faux.
C'est vrai.
Rien à voir avec le Parti Socialiste. Hein. PS voulant dire petite singularité au pluriel, car nous sommes toutes et tous des petites singularités dans ce bel univers néolibéral dans lequel on recherche perpétuellement, grâce à l'intelligence artificielle, l'avènement de la singularité. Celle qui pourra gérer le bétail humain de nain de maître avec une finesse digne des algorithmes les plus précis. La singularité.
Oui, mais je réponds à votre question. Quelle est votre question?
Pardon?
Tu parlais d'IA, il faut bien créer une IA.
Ah, oui, comment on arrête Terry Rock? Il n'y a pas un bouton pour ça?
Très joli discours, Terry Rock.
Oui, j'ai failli pleurer.
Oui, moi aussi, j'ai failli mettre une petite larme à l'œil, comme ça. D'ailleurs, j'en ai pété mes lunettes.
Ah bah bravo.
Oui, comme tu dis. Enfin, pété, on va essayer de les réparer, hein. Voilà. Et en écoutant JC Frog, j'ai trouvé que le mot entrepreneur avait quelque chose de sympathique qui ne m'était jamais apparu. Les entrepreneurs sont entre gens qui prennent.
Oui.
Je ne savais pas ça. Les entrepreneurs. Moi-même étant un entrepreneur, je me demande à qui je prends. Mais soit. J'en reviens à mes lunettes. À vous les studios. C'est ça aussi la solidarité.
C'est les jolis directs.
C'est solide. Ah ouais, qu'est-ce qu'on m'a lâché encore là, solide. Ça vous dit quelque chose ce beau projet? Je me demande si c'est pas sorti des méandres intellectuels de Tim Berners-Lee ou je sais plus trop qui. Histoire de profil.
C'était quoi
d'identification, enfin, comment dire, c'est comme si tes données étaient dans une sorte de conteneur qui t'appartenait réellement, et c'est toi, humain, qui, on va dire, établit comme ça le panel entier d'accessibilité que tu accordes à différents services. Je veux dire, voilà, c'est un concept un sauveur de l'intimité numérique. C'est peut-être SOLID.
Parce que pour moi, c'est...
Je vais te retrouver ce que c'est.
C'est ouais. Un objet en trois dimensions qui occupe un certain volume.
Ouais, c'est 2200 conteneurs qu'ils ont paumés dans le Pacifique. Là.
Alors, solide, ça veut dire social linked data.
Ah voilà.
Et j'ai rien compris à la petite brochure que j'avais lue à propos de ça.
Ouais, c'est pas...
J'ai vraiment absolument rien compris. Ça a l'air d'être un truc bien, bien libéral, comme on les aime. Mais bon, peut-être que je suis trop critique.
Oui, voilà. Et jaloux.
Oui, voilà, je suis jaloux.
Ça lance une nouvelle, c'est tout à fait une nouvelle émission. Ça, c'est pour la première de janvier qui tombera le premier vendredi de janvier. Vous savez déjà? Eh bien, ce sera le 1er janvier.
Et oui, chouette. Donc, en gros,
pour chouettement finir 2020 sur une touche libriste et des petites suggestions encore et des visions d'avenir pour 2021 à fond le libre.
Déjà, comme tu as suggéré très récemment, aujourd'hui, cette année, il n'y aura pas beaucoup de cadeaux en dessous du sapin. Du coup, beaucoup plein de sous-sous qui n'auront pas été dépensés en cadeaux. Donc, quels sont les projets que vous désirez, chers membres de la table, et promouvoir, inciter à faire une donation?
Nico.
Mais il n'y a plus de sous, mon vieux.
Nous, on n'a plus de sous.
C'est pour ça qu'on est libre.
Il
n'y
a pas de sous, il n'y a pas de sapin.
J'avais vu
un article. Il n'y a plus de plafond dans la cuisine.
J'avais lu un article d'ailleurs qui disait que avec la crise désastreuse du coronavirus, les milliardaires, je sais plus les combien premiers milliardaires, avaient fait tellement de bénéfices que ils pourraient chacun reverser 3000 euros à chacun d'entre nous sur la planète, j'imagine. Enfin, les chiffres sont juste astronomiques et ils pourraient donc donner cette aide de 3000 euros et revenir à leur situation pré-Covid. Se donner une idée, c'est 1000 milliards, je crois, un truc dans le genre de dollars.
Ouais, c'est pas faux.
C'est beau.
Mais... Bon, justement, astronomique. L'objectif est là.
Ah oui,
l'astronomique.
Désastronomique.
Voilà, il faut fuir le désastre planétaire. Il faut conquérir l'univers. Tu vois? Donc il faut explorer, et grâce à ça, il faut développer des technologies, et grâce à ça, on pourra aller un peu plus loin que ce petit bout de caillou ridicule et minable qu'est la planète. Nous irons sur d'autres astres, voir quelles en sont les conditions de vie, ou les ressources exploitables, elles aussi, probablement. Mais pour ça, il faut développer des entreprises innovantes, créatrices de beaux projets qui permettront comme ça d'aller, je sais
c'est
pas...
C'est notre moi, projet.
C'est notre projet. Oui, c'est ça. Non, c'est pas le nôtre. Enfin,
j'imagine déjà le slogan « Export the Covid ».
Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on y serait plus vite sur ces autres planètes s'il n'y avait pas toutes ces merdes de propriété intellectuelle, de...
Propriété.
De brevets, oui, bon, enfin, on va pas choquer tous les êtres humains, parce que la propriété, c'est un concept très anarchiste, questionné par beaucoup d'anarchistes, mais soit. Non, mais si toutes ces recherches innovatrices étaient simplement partagées avec toute la planète, dans toutes les langues, je pense qu'on y serait déjà sur Mars, tu vois, au fond. Hein.
c'est pas un projet commun.
Oui, mais c'est ça, c'est pas un projet commun. C'est pas vraiment un projet commun. C'est que, voilà, c'est un projet issu de la tête de quelques énergumènes qui pensent qu'ils y seront avant les autres et pour le bien de l'humanité. Ouais, bon.
Oui, pardon, on parlait des projets qu'on voulait voir réalisés.
Ah, alors.
Et on s'est parti encore en dystopie.
Ah oui, c'est parti. En dystopie. Non, c'est pas de dystopie du tout. C'est, alors, qu'est-ce que j'ai découvert comme truc que j'aimerais bien qu'on supporte économiquement? Why You Know Host. Évidemment.
Ouais.
Why You Know Host. C'est quand même un des très beaux projets d'avoir, la possibilité, grâce à Why You Know Host, d'expérimenter, même avec des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, les affres de l'auto-hébergement. Les joies de l'auto-hébergement aussi. Mais parfois aussi les souffrances de l'auto-hébergement. Mais au moins, c'est possible. Et ça, c'est Why You Know Host qui permet de le faire. Il n'y a pas que Why You Know Host, mais c'est celui que, pour le moment, je trouve le plus chouette et le plus sympa et le plus accessible.
Moi, de mon côté, ce serait un petit projet de data center en colocation. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en a déjà parlé de temps en temps, il n'y en a pas le temps là. Mm-hmm. Mais ouais, ce serait cool de voir réaliser ça l'année prochaine. Mais bon, c'est un rêve. Hein,
Il parle de chez Mémé, hein, pour traduire un petit peu.
De charrette d'essai, ouais.
C'est
le
son
truc
nouveau nom.
Qu'on tire depuis des années.
Mais ouais, donc avoir faire une colocation comme pour une maison, mais sauf que c'est un data center, enfin une baie de data center pour être plus précis.
Frédéric, un projet que tu as envie qu'on soutienne?
Moi, personnellement, je serais vraiment dans le domaine de la communication. Ce que Pouillou disait tout à l'heure, donc maintenant, il y a avec Peertube, il y a moyen de faire du live. Là, il y a encore un petit peu de neurones à faire chauffer et ça permettrait de d'écarter les fameux tut. Mais c'est nul. En live, voilà. Donc c'est du côté de Peertube, donc c'est chez Framasoft que là, je mettrais bien des petits sous, là dedans, parce que c'est allez un petit peu les grosses plateformes de sociabilisation, enfin de conversationnel. Hein,
quand t'aimes pas prendre ton café autour de Teams?
Ben, non, pas tellement.
Pas d'insulte.
Il a un goût bizarre.
C'est, ah, je comprends.
Je mets un sucre dedans, il tombe pas, il flotte. T'es tellement, c'est dense, c'est noir, c'est vraiment du brut, brut de brut, quoi. Voilà, moi, je...
Non.
Les outils de Framasoft valent la peine d'être soutenus, car après on peut les mettre dans une petite boîte Why You Know Host, et on peut donc les exporter, les fédéraliser, et tout ça, tout ça.
Et... Nico?
Moi j'aimerais bien avoir des petites boîtes Neutrinet un peu plus partout dans la ville, dans les appartements, dans les maisons.
Au Palais Royal.
Au Palais Royal.
La Brique Royale.
Non, pas au Palais Royal.
Nous avons déjà le nom de domaine où le roi et la reine, nous sommes prêts à leur offrir gracieusement.
Une brique internet.
Voilà.
Et l'adresse IP qui va avec.
Donc toi plutôt dans Neutrinet?
Oui. Ah ouais.
Putain.
Oh. Bah, pas que les informaticiens quand même aussi. Allez, je sais pas, ou des projets locaux, ton voisin, ou je sais pas, une fois pensé à tout le monde. Et, ouais, je sais pas.
Liberté, égalité, fraternité.
Voilà, on va clôturer en douceur.
Ok.
Chers amis, portez-vous bien, que la force du libre soit avec vous. Merci d'être venu. Et
à l'année prochaine.
Le 1er janvier, voilà, on sera ici avec l'équipe des Nuragifs pour.
Non, il l'a dit. On sera là le 1er janvier.
Oui, oui, il l'a dit, il l'a dit. On sera là, on fera du live.
Bonne fête de fin d'année.
Le seul incitation.